France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Le bonheur est-il dans le désir? C'est notre question cette semaine. Et ce matin, nous parlons de la séduction, de ce plaisir-là, parfois si doux, qu'il nous apparaît comme un visage du bonheur. On évoque souvent le plaisir de la naissance du désir, l'excitation joyeuse de la quête de l'autre, quand on séduit et quand on est séduit. Et si c'était le plus grisant, le meilleur, le bonheur même? Pourtant, la psychanalyse ne nous apporte pas une réponse tout à fait apaisante sur tout cela, si j'en crois un livre très intéressant que vient de publier Isabelle Alfandari aux Presses universitaires de France, livre intitulé « Le scandale de la séduction d'Édipe à MeToo ». Il est rare que le temps de la séduction soit vécu aussi délicieusement par les deux individus qui se rapprochent l'un de l'autre. Car la séduction charrie des souvenirs, en général inconscients, de notre sexualité infantile, ce qui est loin d'être une simple partie de plaisir. Et puis parfois c'est un vrai trauma qui est attaché à la séduction lorsqu'un adulte, dans notre passé, a créé une effraction grave dans cette sexualité infantile. Nous allons travailler ces problèmes ce matin, non pas sur un divan, mais dans ce studio de radio avec deux praticiens et théoriciens de la psychanalyse. Eh bien, bonjour Isabelle Alfandari.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce livre passionnant, Le scandale de la séduction, d'Édipe à MeToo, paru au PUF il y a quelques mois. Vous êtes psychanalyste, philosophe de formation, professeur de littérature comparée et de littérature américaine en particulier, à l'université Sorbonne Nouvelle. Et bonjour Thierry Bokanowski. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, vous avez beaucoup publié, en particulier aux Presses universitaires de France, un ouvrage sur Sandor Ferenczi, qui a déjà quelques années, mais qui reste très important. Ferenczi, ce psychanalyste hongrois mort en 1933, qui a eu avec Freud un rapport à la fois intense et empreint de difficultés. L'œuvre de Ferenczi est aujourd'hui considérée comme essentielle, notamment pour penser la relation enfant-adulte, ainsi que la relation entre le psychanalyste et son patient. Je vous propose à tous deux de commencer notre réflexion en écoutant le philosophe Jean Baudrillard. En 1979, celui-ci évoquait dans les Nuits magnétiques sur France Culture son ouvrage qui venait de paraître alors, intitulé « De la séduction ».
Le diable est bien quelque chose de l'ordre de la séduction. Au moment donné où elle apparaît véritablement, c'est-à-dire dans l'univers chrétien, sous une certaine forme, oui. Parce qu'il est celui, enfin déjà l'histoire du paradis terrestre, d'une certaine façon, c'est lui qui amène, qui à un moment donné trouble l'ordre du paradis terrestre. Bon, cet ordre apparemment transparent, harmonieux, quoi. C'est lui qui introduit la discrimination du bien et du mal. Donc il séduit, c'est-à-dire il détourne la vérité de quelque chose, il déséquilibre, il déstabilise un ordre. Donc dans le sens littéral, c'est déjà de la séduction, quoi. Mais après, ça sera éventuellement celui qui viendra au contraire rétablir l'indistinction du bien et du mal. Ça peut être une autre forme de séduction. C'est la forme inverse, mais c'en est encore une autre, je veux dire. La séduction peut inverser tous ces termes, elle sera toujours là où il y aura un ordre établi pour le diaboliser, pour le sataniser ou pour le détourner. Enfin, le diable n'est qu'une figure relativement perverse presque de la séduction, quoi, qui a pris forme dans l'univers chrétien. Il y a des formes beaucoup plus, disons, harmonieuses ou alors agonistiques, mais par exemple la séduction dans l'univers mythologique antique, grec et tout ça n'est pas du tout du même ordre. Elle n'est pas diabolique, mais c'est pourtant une figure très riche de la séduction.
La séduction est une figure du diable, dit là Jean Baudrillard, Isabelle Alfandari, et il suggère que c'est un jugement porté sur elle régulièrement, en particulier dans les religions. Est-ce que cette idée de quelque chose de profondément négatif et inquiétant ne tient pas aussi au fait que la séduction comporte des choses désagréables ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Oui, c'est certain. Cela dit, la figure du diable qui peut avoir l'air d'être un poncif me paraît quand même être une figure très intéressante parce que le mot diable vient d'une étymologie qui veut dire double. Et la séduction, elle a un visage double. Elle est la figure de Janus. Elle est à la fois ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire potentiellement délicieuse, heureuse, comblante et potentiellement effractante, dangereuse, débordante. Donc l'appeler par la figure du diable, c'est pas mal.
C'est pas mal. Mais vous êtes d'accord pour dire que souvent, dans les propos de Baudrillard et dans son livre, on a l'impression que c'est justement parce qu'elle est jouissive et belle, délicieuse, qu'elle est stigmatisée comme quelque chose de mal.
Oui.
Du point de vue de Baudrillard.
Oui, mais ce qui intéresse Baudrillard, je crois, c'est la dimension d'ambivalence de la séduction. Mm. C'est pour ça que Baudrillard m'a quand même intéressé beaucoup, parce qu'il est aussi un lecteur de la psychanalyse, de ce point de vue-là. Un lecteur très intéressant. Il regarde que la psychanalyse, elle d'une certaine manière, elle échoue sur la question de la séduction. Elle commence et elle échoue sur cette question-là, sur la question de l'ambivalence de la figure de la séduction, imprenable, finalement.
Thierry Bokanowski, la question de la séduction intéresse et passionne même la littérature. Elle a intéressé la philosophie, même si il faut bien reconnaître que ce n'est pas sa spécialité. Enfin, je veux dire, Jean Baudrillard, c'est plutôt un livre exceptionnel. On n'a pas comme ça une bibliographie entière sur la séduction. Enfin, maintenant, on a Isabelle Alfondari, mais on n'avait pas énormément de choses. Est-ce que pour le psychanalyste, il se joue des choses majeures concernant l'histoire et notamment l'enfance des patients dans la séduction?
Ah bah, évidemment. Mais moi, j'aurais voulu simplement partir, pour parler de la séduction, du fait que c'est un terme polysémique, un terme au large spectre, sur le plan émotionnel et sur le plan des sensations, qui peuvent aller de l'amour courtois, et qui a un côté, effectivement, là, de plaisir,
oui,
qui va donc de l'amour courtois à la haine passionnelle, et qui, là, du coup, est quelque chose qui, effectivement, renvoie à l'inverse du terme habituel de séduction. Et donc, je prendrai comme ça, donc ça peut prendre des significations différentes, le terme séduction, est variable en lien au principe de plaisir des plaisirs. Principe de plaisir, oui, des plaisirs. Je cite Ninon de l'Enclos. Mm-hmm. Rien n'est si aimable qu'un homme séduisant, mais rien n'est plus odieux qu'un séducteur.
C'est génial.
Et ça, je trouve que ça illustre parfaitement la question de la difficulté d'aborder la séduction.
Il y a des grands séducteurs qui disent aussi que ça ne marche vraiment, et ça n'est un plaisir pour eux, que lorsqu'ils comprennent qu'en réalité, ils sont séduits.
Oui, oui. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais je me disais qu'il y avait un mystère concernant le plaisir de la satisfaction sexuelle, de la sensation sexuelle et de l'acmé de ce plaisir, qui ne ressemble à rien d'autre, et pas même aux autres types de plaisir. Il y a là quelque chose qui est au sein même de la séduction, dans son côté à la fois positif et négatif. Et moi, je parlerai plutôt de la séduction telle que Freud, oui, l'a, lui, définie, à savoir qu'il s'agissait pour lui du fait que les abus sexuels, enfin au départ de, oui, sa théorie, dans sa théorie première concernant la séduction, qu'il s'agissait des conséquences conséquences sur le plan pathologique, des abus sexuels et des agressions sexuelles que les jeunes femmes évoquaient lors de leur traitement et qui, évidemment, renvoyaient à une explication de l'hystérie. Et là, le fait que définir la séduction sous le plan de l'abus sexuel et de l'agression sexuelle s'est transformé dans sa théorie, dans la mesure où, à partir d'un certain moment, il s'est agi beaucoup plus pour lui d'abandonner la réalité matérielle de l'abus sexuel ou de l'agression sexuelle, de transformer cela en fantasme que les personnes pouvaient faire passer pour des abus sexuels, etc., etc., etc.
Nous allons creuser ce point qui est au cœur de notre émission.
J'espère que j'ai été clair.
Oui, oui. D'ailleurs, de toute façon, nous allons prolonger et vous pourrez encore éclaircir certains points. Alors, ce que vous venez de dire nous mène à ce point. La séduction, dans le langage ordinaire, est quand même elle est positive et ambivalente. C'est ce que vous venez de dire avec la figure intéressante du diable de Baudrillard. Mais en psychanalyse, c'est comme si elle était prise en son sens étymologique, sédoucérée, il y a un détournement, on conduit quelqu'un vers soi, et d'emblée, alors c'est peut-être encore plus clair en allemand, vous nous direz Isabelle Alfandari, d'emblée, à sa naissance, la psychanalyse perçoit la séduction comme quelque chose de dangereux, de négatif, source d'abus. Et même si Freud va ensuite reculer d'une manière que précisément je vous propose qu'on explore en détail. Isabelle Alfandari, qu'est-ce qui se passe au moment où Freud, faisant des études sur l'hystérie, détermine quelque chose qui est abusif, qui est agressif et qu'il appelle la séduction? Comment ça se dit en allemand?
Alors ça se dit Verführung en allemand, ce qui veut dire littéralement sortir du sillon, faire sortir du sillon. En latin, enfin en français, l'étymologie latine est légèrement différente. Seducere, seducere, c'est tirer à part, prendre vers soi. C'est oui. Pas tout à fait le même motif. Donc c'est plus violent d'une certaine manière la séduction que le Verführung allemand. Ça c'est une première chose. Et donc c'est pas pour rien que La Planche est un francophone qui est un grand spécialiste de la question de la séduction, il me semble. Et même s'il a un rapport à l'allemand. Oui. Donc on y reviendra peut-être, mais en tout cas, l'idée pour Freud, c'est d'avoir donné comme nom à sa première théorie explicative de cette maladie à l'époque qu'on appelle l'hystérie, le nom de théorie de la séduction. Il aurait pu l'appeler, on pourrait le dire aussi, théorie du viol, hein. Il faut quand même le dire. Séduction, c'est une espèce d'euphémisation de ce que Freud découvre, c'est-à-dire que les femmes qui viennent le trouver lui demandent de les laisser parler, il les écoute, et dans un grand nombre des premiers cas, elles racontent une scène de violence sexuelle. Mmh. Et il appelle ça théorie de la séduction.
Et voilà. Souvent, venant d'un personnage masculin,
oui.
Qui pourrait être le père, qui oui. Est parfois clairement le père, parfois ce n'est pas clair,
oui.
Ce qui... conduit à dire deux, trois choses sur ce point.
Oui, juste donc, en général, c'est un homme proche, mais on sait que la plupart des viols sont souvent perpétrés par des hommes dans la sphère. Et c'était le cas des frères, des oncles, des amis de la famille, de l'entourage familial, ou le père. Mais vous dites, parfois le père, c'est pas très clair. En fait, c'est très clair. Mmh. Il y a deux cas dans les études sur l'hystérie qui sont en fait publiés donc avant la fin du 19e siècle, donc à un moment où la société d'une certaine manière est encore très archaïque, on pourrait dire, est très patriarcale, et où Freud, deux cas d'inceste paternel sur une fille qui ne sont pas notés tels quels par Freud, qui sont simplement décrits comme des incestes perpétrés par un oncle. Et dans une édition ultérieure, Freud va ajouter une petite note chaque fois en disant « Je dois reconnaître qu'il s'agissait ici non d'un oncle, mais du père ». Et on comprend donc que c'était un inceste paternel. Donc la question de l'inceste paternel, de la figure du père, de l'incrimination de la figure du père, elle est à l'origine de la psychanalyse freudienne, même si Freud l'édulcore, l'euphémise, pour des raisons qui sont sans doute liées au fait que Freud est en train d'inventer une nouvelle science, dans une atmosphère de la Vienne de la fin du 19e siècle extrêmement bourgeoise, patriarcale et qui repose sur la clé de voûte du père, c'est difficile d'emblée de fonder une science sur l'incrimination du père. Et c'est pour ça que Freud va appeler cette théorie qu'on pourrait appeler théorie du viol, on pourrait lire comme ça, ou de la violence sexuelle, théorie de la séduction. C'est un euphémisme, séduction.
Juste encore un point là-dessus. Si je suis restée prudente sur la figure du père, c'est parce que Freud remarque aussi que dans certains cas, c'est comme si elle était déplacée sur d'autres. Le nombre de domestiques qui sont incriminés, comme on disait, il est bien conscient, lui, à ce moment-là, dans les années 1890, que peut-être c'est une manière de déplacer par la patiente une agression qui provient de son père. Ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver.
Enfin, il se pose des questions, en fait, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas toujours clair et net, c'est parfois élaboré d'une manière qui l'interroge.
Enfin, il va surtout se poser la question dans la fameuse lettre à Fliss de l'automne 1897, où il va dire, mais finalement, si autant de pères que ceux-là sont abusifs, hein, s'il y a autant d'hystérie que cela parmi les femmes, et autant de femmes qui se plaignent d'avoir été victimes d'hommes, et notamment de leur père, eh bien, il faudrait pouvoir juger que tous les pères sont des abuseurs.
Et Freud dit... Y compris le mien,
dit Freud. Oui. Et donc, ça n'est pas possible. Une telle chose n'est pas envisageable, et c'est comme ça qu'il renonce à sa théorie de la séduction.
Mais qu'est-ce qui lui arrive, là, franchement? Qu'est-ce qui se passe dans cette lettre de 1897? Alors que, même quand ce n'était pas directement le père, il entendait... en cure, le père, parfois c'était très directement le père, souvent c'était directement le père. Il réfléchit au comportement de son propre père et soudain, il abandonne ce qu'il appelle la neurotica dans cette lettre à Fliss de 97 où il dit finalement que non, qu'il ne peut pas y avoir eu autant d'abus dans la société que ce qu'il semble découvrir sur son divan. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Eh bien, à ce moment-là, on parlera, si on suit, par exemple, Didier Anzieux, on parlera qu'à partir de ce moment, on assiste à l'effondrement de l'hypothèse de la séduction sexuelle infantile, c'est-à-dire la réalité matérielle qui prend le masque de la réalité psychique. La réalité psychique étant la réalité fantasmatique. C'est-à-dire le fait que Freud découvre que, petit à petit, hein, c'est pas venu en un jour, mais grâce à son auto-analyse, découvre que finalement les fantasmes inconscients chez l'enfant peuvent amener à faire en sorte que ces fantasmes qui appartiennent à ce qu'il appelle la réalité psychique deviennent et se transforme en réalité matérielle. C'est-à-dire que d'un côté, l'acte dénoncé peut venir masquer aussi quelque chose de l'ordre du fantasme inconscient.
Du fantasme d'avoir été séduite, ce sont souvent des femmes, par son père, qui serait finalement plus important que la réalisation éventuelle de cette séduction dans la réalité, non pas psychique, mais
Absolument.
Vraiment externe.
Absolument.
Les pères abusent parfois de leurs filles, mais ce qui intéresse soudain Freud, c'est le fantasme des filles.
Absolument.
Et des garçons.
Des années plus tard, Freud sera conduit à écrire que sa théorie initiale, c'est-à-dire celle de la séduction réelle, n'est pas fausse, mais incomplète, c'est-à-dire que on peut effectivement avoir été abusé, mais en même temps, cet abus a pris des proportions telles que, enfin, peut se comprendre dans ses proportions par le fait qu'elle est alimentée par les fantasmes inconscients, et ce qui va l'amener, lui, à s'intéresser à l'inconscient et aux fantasmes qui organise l'inconscient.
Tout aussi fort pour les garçons que pour les filles, vous dites-vous, avez-vous suggéré, Isabelle Alfandari, le fantasme d'avoir été séduit?
Enfin, le fantasme, c'est pas seulement le fantasme d'avoir été séduit, c'est certainement que tous les petits sujets qui ont connu un développement psychique ont été séduits. Il y a un psychanalyste dont le nom a été évoqué, qui est Ferenczi, qui va dire que dans un article de la fin des années 20, un article qui s'appelle « L'enfant mal accueilli et la pulsion de mort », que si on n'a pas été séduit par sa mère, on est en grand danger, ou par le premier autre secourable qu'on a trouvé auprès de soi quand on était un bébé, on est en grand danger de rouler vers le néant dont on vient. Donc tous les petits êtres, c'est ça le scandale de la séduction, tous les petits êtres qui deviennent des individus que nous sommes ont été, à un moment de leur existence, on l'espère, séduits. Séduit, ça veut dire aimer, ça veut dire caresser, ça veut dire être l'objet d'une adresse particulière, d'avoir été pris à part de tous les autres, pour avoir été l'objet d'une adresse qui est une adresse de séduction. Donc, les petites filles comme les petits garçons, on l'espère, ont été notamment séduits par cette figure que Freud découvre après sa première théorie de la séduction et après l'avoir abandonnée, qui s'appelle la mère.
Bon. Et qui prend un peu la place des considérations initiales où c'était le père qui était
Exactement.
Incriminé. Et puis par ailleurs, si tout le monde a été séduit par sa maman
ou par son papa,
pour se développer, parce qu'il n'y a pas que les biberons et changer les couches, il y a ces jeux de regard au moment où on babille, où tout le monde se met à voir cette langue du bébé, ces éclats de rire qui parfois n'appartiennent qu'aux parents et aux enfants.
Séducteur. Ah. Qu'il peut être séduit.
C'est-à-dire
et qu'il ne faut comment, pas oui. éliminer la question de la séduction qu'induit le petit enfant qui fait de la mère, qui fait de la femme une mère. C'est très important.
Mais vous en convenez, en élargissant les enjeux autour de la séduction, nous avons tous été séduits, nous avons tous séduit notre maman et notre papa, etc. Freud met de côté, ça lui sera reproché bien plus sûr. Tard, les cas de séduction abusive,
oui.
d'où il était parti.
Bien sûr.
Oui. D'où il était parti.
Oui.
Et pourquoi, quand même? Parce que c'est tellement énorme ce qu'il a découvert, c'est tellement plus important, c'est tellement plus généralisé, généralisable, que les cas d'abus qu'il ne méconnaît pas, mais dont il ne veut pas se faire le spécialiste.
Exactement. Il a toujours été à la recherche de savoir si le fantasme n'était pas lié ou était lié à ce qu'on pouvait imaginer de la réalité psychique, c'est-à-dire si cette réalité psychique était ou pas liée à une fantasmatique, voire...
Ce qu'il faut peut-être juste dire, c'est que oui, politiquement, scientifiquement, Freud fait un pas de côté en renonçant à la théorie de la séduction, pour des raisons qui s'expliquent. Et Freud va quand même dire que le fantasme est toujours construit sur quelque chose de réel,
voilà.
mais a été remanié autrement. Mais pas forcément une séduction abusive qui tombe sous le coup de la loi ou de la morale, mais il s'est toujours passé quelque chose. Donc même les hystériques, avec beaucoup de guillemets, qui ont des souvenirs d'abus, en fait, elles n'ont pas complètement du tout rêvé et elles ne mentent pas. Freud ne dit jamais ça.
Non, non, non.
Il dit, il y a dû se passer quelque chose, une scène équivoque,
oui.
dans laquelle elles ont été prises et elles ont cru, à bon droit d'une certaine manière, avoir été sans doute l'objet d'un abus. Juste pour finir,
oui.
juste, il y a, dans la psychanalyse, après Freud, il y a au moins deux analystes, Ferenczi et Laplanche, dont je parle dans le livre, qui vont faire grand reproche à Freud d'avoir trop tôt abandonné sa théorie de la séduction et de faire trop peu de cas des abus réels. Donc, il y a d'une certaine manière dans la séduction toujours un peu de l'abus, toujours un peu du diabolique, comme dit
Baudrillard,
mais il y a aussi des abus réels et la psychanalyse freudienne, elle a eu tendance à les euphémiser. Voilà. Il y a quand même des analystes qui disent non.
Et votre livre, qui lui-même a quelque chose de scandaleux en montrant, en revenant au scandale de la séduction, nous dit que le problème de la psychanalyse aujourd'hui avec des récits d'abus sexuels tient au fait qu'elle n'a pas bien réglé quelque chose qui pourrait être considéré comme son péché originel. Elle vient de la théorie de la séduction. Freud l'a abandonnée excessivement, scandaleusement peut-être. Et aujourd'hui, la psychanalyse est en crise, Isabelle Alfordari.
Alors, je ne sais pas si j'irai jusqu'à ce diagnostic. Sans doute qu'elle l'est et elle ne l'est peut-être pas que pour cette raison. Mais incontestablement, c'est le péché, comme vous dites, originel de la psychanalyse. Et elle doit continuer à y réfléchir. Et moi, mon idée, c'est que les analystes doivent continuer à penser, y compris avec ce qu'on appelle le mouvement MeToo aujourd'hui, à ce que demandent les femmes, à ce que réclament les femmes,
oui.
qui était déjà ce que réclamaient les premières patientes de Freud, à savoir d'être écoutées dans les abus qu'elles narrent.
Thierry Bokanowski, on vous écoute.
Ceci entraîne une règle technique, à savoir qu'il n'apparaît pas, il n'appartient pas à l'analyste de se prononcer sur la véracité des souhaits inconscients, ni sur la réalité des idées préconscientes. L'analyste n'a pas à décider et doit se garder de traduire les éléments de la réalité psychique en réalité matérielle. Et les réminiscences d'abus sexuels sont soumises au même régime d'indécidabilité que peuvent l'être les rêves ou les fantasmes. Ce sont des règles techniques.
C'est très important ce que vous venez de dire.
Très important, oui. parce que, quel que soit le matériel, on est fatalement en prise à savoir si c'est une réalité qui a organisé ou si c'est le fantasme qui organise une réalité.
La séduction est-elle un plaisir ou est-ce beaucoup plus complexe que cela? C'est notre sujet ce matin au sein d'une série sur bonheur et désir. Je suis en compagnie de deux psychanalystes et penseurs aussi de la psychanalyse et de son histoire et de ses théories, Isabelle Alfandari et Thierry Bokanowski. Nous allons parler un peu plus tard de Ferenczi, de ce qu'il a pu reprocher à Freud dans un texte important de 1932, la confusion des langues entre les adultes et l'enfant, qui parle directement de ce point de la séduction des enfants par les adultes dans la réalité, ce point que Freud a fini par mettre de côté alors qu'il en était parti, pour réfléchir davantage à la réalité psychique et aux fantasmes plus qu'aux actes réels. Je voudrais qu'on écoute Freud, parce que voilà, pas commencer sans revenir à cela. Les trois essais sur la théorie sexuelle, voici donc un extrait de ce livre du tout début du XXe siècle.
La mère serait vraisemblablement effrayée si on l'éclairait sur le fait que c'est elle qui, avec toutes ses tendresses, éveille la pulsion sexuelle de son enfant et en prépare l'intensité ultérieure. Elle tient ce qu'elle fait pour du pur amour asexuel, puisqu'elle évite pourtant soigneusement d'apporter aux organes génitaux de l'enfant plus d'excitation qu'il n'est indispensable dans les soins corporels. Mais la pulsion sexuée n'est pas seulement éveillée par excitation de la zone génitale, nous le savons bien. Ce que nous appelons tendresse manifestera immanquablement un jour son effet sur les zones génitales aussi. Si la mère comprenait mieux la haute significativité des pulsions pour l'ensemble des fonctions d'âme, pour toutes les réalisations techniques et psychiques, elle s'épargnerait d'ailleurs aussi tous les auto-reproches après cet éclaircissement.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Même impeccable, si j'ose dire, dans son rapport au bébé, la mère, ou disons aujourd'hui le parent qui soigne l'enfant, qu'il soit une femme ou un homme, quel qu'il soit, on peut s'occuper très bien d'un bébé, il n'en reste pas moins que c'est ce personnage-là, dans la vie de ce bébé, les personnages qui font ses rôles, qui occupent ses rôles, qui vont l'éveiller à quelque chose comme la sexualité encore infantile, au désir. Et ça, c'est très troublant.
C'est troublant, mais c'est vital. Et c'est peut-être ça la découverte freudienne, c'est la grande découverte de la psychanalyse freudienne, c'est le plaisir, c'est la place du plaisir et d'Eros dans la vie des sujets. Sans ce trouble dans la vie psychique, au premier temps de la vie psychique, sans les caresses, les adresses, le rire, les chants, la cantate maternelle, comme dit un psychanalyste, l'enfant n'est pas amené vers la vie. Donc c'est à la fois très troublant, parce que Freud dit que l'enfant n'est pas seulement choyé de manière neutre, selon un amour qu'il appelle asexuel, comme on peut le croire, comme le premier autre peut le croire quand il dispense ses soins, mais que ces soins-là, ils sont déjà travaillés par ce premier autre, qui est lui-même un enfant qui s'est oublié comme enfant, qui a été lui-même l'objet d'une telle transmission et qui transmet quelque chose de la pulsion, de sa propre pulsion sexuée. Et Freud écrit en peu de temps, quelques temps, une dizaine d'années après ce premier texte sur les trois essais, il écrit un texte sur Léonard de Vinci. Il s'intéresse au personnage de Léonard de Vinci, qui est pour lui un personnage extraordinairement intéressant, romanesque de la Renaissance. Et il note que ce grand génie de la Renaissance, ce grand penseur, ce grand artiste, était aussi connu pour avoir une vie sexuelle et, disons, amoureuse extrêmement, extrêmement pauvre. Et il s'étonne. Et puis, il découvre que Léonard a eu une espèce d'excès, en tout cas c'est sa lecture, d'excès de mère. Il a eu deux mères, une mère biologique qu'il a aimée passionnément parce qu'elle avait été quittée par son père, et une deuxième mère, et une mère, une belle-mère. Et il fait l'hypothèse que c'est cet amour maternel débordant, que c'est ce trip, cette pulsion sexuée débordante, qui d'une certaine manière a rendu possible la sublimation artistique dont il est l'auteur, et en même temps a complètement empêché la possibilité qu'il a d'aimer. Donc il y a un trouble, et c'est troublant que la personne qui s'occupe du bébé lui transmette beaucoup plus que simplement un amour asexué, et en même temps c'est absolument vital.
Ce qui est troublant, c'est que ces personnes qui éveillent finalement l'enfant à la sexualité, tout simplement en lui donnant du soin, de la vie, de l'amour, sont en même temps les personnes interdites. à un moment donné dans l'histoire de l'enfant, sexuellement, ces personnages représentent un interdit. Donc nous sommes nés tous à la sexualité grâce à des personnes qui se sont occupées de nous et qui ont été en même temps sexuellement interdites, Thierry Bokanowski.
Oui.
Et donc, est-ce que c'est cela qui se réveille à chaque fois dans nos vies que nous connaissons de la séduction?
Mais bien sûr.
Avec un psychanalyste aussi?
Oui.
Pardon, du coup vous dites oui, donc moi je repose les questions derrière. Avec le psychanalyste aussi, les patients revivent cela?
Mais évidemment.
Et les psychanalystes avec leurs patients?
Mais évidemment, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a le passage de l'infantile, de l'analyste à l'infantile de son patient, et réciproquement, l'infantile du patient vers l'infantile de l'analyste, et tout ça va organiser des résistances. Et c'est la levée de ces résistances qui permet à ce moment-là un dégagement sur le plan de l'organisation temporelle de la difficulté que le patient a eue sur le plan son organisation psychique.
Peut-être dire que l'infantile, ce que vous dites Thierry Bokanowski, que vous appelez l'infantile, que Freud appelle aussi l'inconscient, c'est précisément ça, c'est-à-dire cette histoire complètement refoulée, inaccessible à la conscience, de la manière dont on a été chéri, aimé, et parfois plus que ça. C'est ça l'infantile, l'inconscient. C'est ça qu'on va d'une certaine manière faire revivre, un peu revivifier dans une analyse.
Vous faites grand cas, Isabelle Alfandari, d'un personnage important de la psychanalyse française, Jean Laplanche, au XXe siècle. Vous nous direz pourquoi, ce qu'il a prolongé et pourquoi c'est important, la théorie de Laplanche sur ces questions par rapport évidemment à celle de Freud. Écoutez cet extrait des Nouveaux fondements de la psychanalyse, un livre de Laplanche de 1987.
Par le terme « séduction originaire », nous qualifions cette situation fondamentale où l'adulte propose à l'enfant des signifiants non-verbaux, aussi bien que verbaux, voire comportementaux, imprégnés de significations sexuelles inconscientes. Ce que je nomme signifiant énigmatique, il n'est pas besoin de chercher loin pour en donner des exemples concrets. Le sein lui-même, organe apparemment naturel de la lactation, peut-on continuer de négliger dans la théorie analytique son investissement sexuel et inconscient majeur par la femme? Peut-on supposer que cet investissement sexuel, qui peut être dit pervers au sens de Freud dans les trois essais sur la sexualité, n'est pas aperçu, soupçonné par le nourrisson, comme source de cet obscur questionnement « Que me veut-il au-delà de m'allaiter ? Et après tout, pourquoi veut-il m'allaiter ?»
Je vous écoute, Isabelle Alfandari, commentaire de Jean Laplanche.
Alors, Laplanche, il est très important dans cette histoire de la séduction. Il fait beaucoup d'écho à Ferenczi. Ce qui est important, la nouveauté et la contribution de Laplanche, c'est que Laplanche récuse Freud sur un point. Il est pourtant très freudien. Mais il récuse l'idée que la sexualité serait innée, qu'elle viendrait au bébé avec lui, d'une certaine manière. C'est ce que Laplanche appelle la fable de l'auto-érotisme. Le bébé qui grandirait et se développerait en éprouvant du plaisir selon des stades,
oral, anal. Ça, c'est un peu anal. Ce que dit Freud.
Voilà, c'est ce que dit Freud. Et Laplanche dit,
peut-être.
Ça tient pas. C'est une fable, cette histoire-là. Ça ne tient pas. Ce qui tient, en revanche, et ce que soutient Laplanche, c'est que la séduction, elle est capitale. Pourquoi? Parce qu'en fait, Laplanche dit, la sexualité, au sens de la sexualité humaine, si elle se différencie de la sexualité animale, c'est pour une bonne raison, c'est qu'en fait, elle est littéralement implantée par l'adulte dans l'enfant. Donc il n'y a pas une sexualité comme ça qui viendrait avec l'enfant, comme si l'enfant naissait avec une petite graine sexuelle de plaisir sexuel qui s'auto-alimenterait. Eh bien, c'est l'enfant qui, au contact de l'adulte, qui envoie certains messages dont il a plus ou moins conscience, des messages un peu étrange. Et je parle ici non pas d'adultes qui sont de grands pervers. Hein.
Et nous pas parlons, d'abus, vous parlez d'une sorte de normalité du soin.
Exactement. D'adultes qui sont simplement des parents qui essayent d'être des parents normaux, mais qui sont au contact de l'enfant, eux-mêmes, habités par leur propre sexualité infantile et qui adressent, c'est ce qui a été dit dans l'extrait que vous venez de lire, on vient d'entendre, qui adressent à l'enfant un message, un saint. C'est ce qui a été dit ici. Fais message pour l'enfant, fais message énigmatique. Que me veut ce saint ? La planche prend d'autres exemples qui sont peut-être un peu moins fantasmagoriques. Il prend l'exemple simplement de deux parents qui se tiennent par la main ou de deux parents qui s'embrassent sans aucun débordement sexuel, voilà, d'aucune manière. Et l'enfant qui se demande ce qui arrive, qui ne comprend pas bien. Et ça, hein, qui ne comprend pas bien cette scène. Et cette scène, elle reste implantée dans l'enfant. La planche dit, cette scène, elle ne va pas cesser de se revivifier dans la vie adulte. Elle a été oubliée, mais elle se revivifie. Et la sexualité, dit la planche, adulte, ça va être de retraduire en permanence l'énigmaticité de cette scène. Qu'est-ce qu'ils se veulent, ces parents, qui s'embrassent tendrement ? Qu'est-ce qu'ils ont entre eux ?
Thierry Bokanowski.
Oui.
J'adore. Non mais parce que quand je vous pose des questions, vous dites oui. Alors maintenant, j'en pose plus pour vous laisser développer, élaborer alors, et nous éclairer.
Je connais mal la théorie laplanchienne, mais ce que j'en comprends, c'est que l'adulte, dans ce qu'il transmet à son infant, bébé. Sont des messages totalement inconscients chez l'adulte.
Non, la planche dit inconscient et semi-conscient et préconscient, pas totalement inconscient. Il insiste beaucoup sur ce point. Bon, la planche.
Donc on ne peut pas tout maîtriser. J'entends qu'on ne peut pas tout maîtriser de ce qu'on envoie à l'enfant. On ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas être tenu responsable de tout. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Mais certaines passent malgré nous, c'est ça ?
Absolument. Mais de toute façon,
et elles sont nécessaires,
les messages sont énigmatiques dans la mesure où ils sont méconnus par l'adulte lui-même de ce qu'il transmet à l'enfant à ce moment-là. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir un double nourrissage, c'est-à-dire que l'enfant va renvoyer à l'adulte un certain nombre de choses qui apparaîtront tout aussi mystérieuses et inconscientes à l'enfant. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un double processus qui s'organise entre un adulte et un enfant, à savoir que les messages qu'il s'envoie sont des messages qui peuvent être totalement inconscients et qui vont organiser l'inconscient de l'enfant.
Mais à quel moment l'adulte franchit une barrière pour laquelle il doit être tenu responsable et il fait du mal. Alors cette question, quoi non ?
Non, c'est très clair.
À quel moment ?
C'est très clair ce moment pour la planche. Il n'y a pas de solution de continuité entre un message énigmatique, une espèce de séduction à demi. Et non, c'est très clair. Ça s'arrête au moment où l'adulte adresse une adresse sexuelle à l'enfant.
Voilà.
Consciente, déterminée, s'en prend au corps de l'enfant. Pour la planche, il y a une espèce.
C'est extrêmement
clair. Il faut bien le dire parce que sinon.
Mais c'est très important.
Et c'est très
important.
Il n'y a aucune relation de continuité, aucune solution de continuité.
Non,
mais à quel moment
Alors, à quel moment Non, mais c'est important. C'est important parce que sinon, on ne comprend rien, en fait, à cette histoire de séduction. De ce que la planche appelle la situation anthropologique fondamentale, c'est-à-dire que l'adulte, de manière consciente et préconsciente, adresse des messages, mais quelques-uns. Pas de manière massive, quelques messages que lui-même ne comprend pas très bien, mais qui viennent de sa propre sexualité infantile. Ça, c'est parfaitement normal. C'est ce que la planche appelle la situation anthropologique fondamentale qui, d'une certaine manière, transmet la sexualité de génération en génération. Ce qui est pas du tout normal et tombe sous le coup de la loi, et il faut dire que la planche est aussi un penseur du crime sexuel, c'est l'enfant
qui est pris à part par l'adulte dans une relation sexuelle.
Et la clarté de ce problème, vous dites c'est clair,
oui.
C'est déjà celle qu'a rappelé Ferenczi dans un rapport compliqué à Freud, j'aimerais bien que vous m'en parliez Thierry Bokanowski, dans ce texte de 1932 de la confusion des langues entre les adultes et l'enfant. Essayons d'être le plus clair possible. Pourquoi ce texte est majeur, Thierry Bokanowski ?
Alors, ce texte est majeur dans la mesure où il vient ouvrir ce que Ferenczi reprochait à Freud et aux analystes de l'époque de Freud, de ne pas tenir compte de la réalité matérielle.
De l'abus sexuel.
L'abus, voilà. Donc, à ce moment-là...
Viol même, pour être clair.
Oui,
encore plus.
Exactement.
Parfois. En tout cas, ça peut être un viol et ça devrait être nommé ainsi.
Oui. Alors, Freud reprochait depuis un certain temps à Ferenczi le fait qu'il avait entendu parler des modifications techniques que Ferenczi apportait, les modifications techniques pour tenter de résoudre le problème qui était le problème de l'au-delà du principe de plaisir,
oui.
En 1920. Plaisir.
Oui, on a entendu.
Bon. À savoir que il proposait des techniques, entre les années 20 et les années 30, il proposait différentes techniques. D'abord, ça a été des techniques d'activité, ensuite, il s'est rendu compte que ces techniques d'activité aboutissaient mal aux résultats, voire entraînaient plus de difficultés que s'il avait laissé l'association libre.
Voilà, donc, une écoute plus active, donc, il a essayé
exactement.
Et il a un peu renoncé.
Il a renoncé, oui. Et jusqu'au moment où il a complètement modifié sa façon d'écouter, à savoir donc laisser les patients totalement libres,
oui.
Et voire inciter à cette liberté. Et alors, il a reproché à Freud le fait que le fait que Freud n'entendait plus la réalité matérielle du matériel.
Oui, bon, je vais le dire peut-être un peu autrement pour voir si ça vous convient. Il y a des fantasmes de tous les enfants sur les adultes avec lesquels ils ont une relation souvent de confiance, d'apprentissage, leur permettant de se développer. Il peut y avoir des fantasmes, il y en a même inévitablement, venez-vous de me dire. Le problème, c'est que lorsque quelque chose de ce fantasme se réalise et qu'une sexualité d'adulte vient faire effraction dans le monde fantasmatique de la sexualité infantile, c'est une catastrophe.
Oui.
C'est un des pires mots qu'on puisse faire à un enfant, c'est ça ?
Oui.
Alors, c'est toute la question du traumatisme, bon, sur laquelle on reviendra, si vous le souhaitez, à la fin. Le concept de confusion des langues témoigne de l'importance de la séduction sur le plan conceptuel, car il contribue à l'élargissement de la signification du traumatique versus trauma, lequel trauma résulte d'une réponse inadéquate, soit par absence, soit par excès de l'objet, la mère, soutenant et tenant lieu de l'environnement. Parce que à une situation face à une situation de détresse, le sujet sujet ne se sent pas pris en compte.
Oui.
Voilà. Donc c'est la définition même du traumatisme.
On peut peut-être ajouter que pour Ferenczi, comme pour Laplanche, le crime sexuel, c'est comme ça que l'appelle Laplanche, c'est le plus grave des crimes. C'est sans appel. Mais par ailleurs, ce que Ferenczi dit dans ce texte, c'est que le problème majeur pour l'enfant, c'est que l'enfant cherche de la tendresse dans la séduction.
Oui.
Et non pas la passion amoureuse à laquelle il ne comprend rien, parce que la passion sexuelle, Differenzi, elle est faite d'amour et de haine, elle est faite d'une ambivalence qui est intraitable par l'enfant. L'enfant ne peut pas, d'une certaine manière, comment dire, incorporer, hein, il ne peut pas faire sens, hein, de la violence, de la sexualité génitale adulte, de son ambivalence entre amour et haine. Il ne peut pas faire sens de ça. Donc l'enfant, il cherche toujours la tendresse, et l'adulte qui lui adresse de la violence et de la passion sexuelle génitale, en fait, il le fait s'écrouler.
Il ne sait pas quoi faire avec ça.
Exactement. Et ça le fait s'effondrer littéralement, l'enfant, ça.
Alors, le sous-titre s'appelle, le sous-titre de ce texte de 1932 de Ferenczi, Confusion des langues entre les adultes et l'enfant, le sous-titre c'est Le langage de la tendresse et de la passion.
De la passion. Alors, en fait, le fait de ne pas approfondir suffisamment l'origine extérieure comporte un danger, rappelle-t-il. À partir de ce postulat, Ferenczi propose de voir dans ces traumatismes l'empreinte et la résultante d'une confusion entre le langage de la tendresse et d'innocence qui se nide dans la sexualité infantile. La sexualité infantile serait une sexualité innocente, laquelle se pervertit au contact du langage passionnel de l'adulte, dont la sexualité vient pervertir et culpabiliser celle de l'enfant.
Ça, c'est alors, très, c'est, je vais c'est très
citer,
important, oui.
Je vais citer Ferenczi, parce que c'est vraiment cette citation qu'on peut entendre, mais que je vais dire, à savoir, alors là, je prends mon temps. Les séductions incestueuses se produisent habituellement ainsi. Un adulte et un enfant s'aiment. L'enfant a des fantasmes ludiques, comme ceux de jouer un rôle maternel à l'égard de l'adulte. Ce jeu, c'est un jeu.
Oui.
Ce jeu peut prendre une forme érotique, mais il reste pourtant toujours au niveau de la tendresse. Il n'en est pas de même chez des adultes ayant des prédispositions psychopathologiques. Ils confondent les jeux des enfants avec les désirs d'une personne ayant atteint la maturité sexuelle. Ils se laissent entraîner à des actes sexuels sans penser aux conséquences. Fin de citation.
Et je vais ajouter la phrase d'après, parce qu'on l'avait préparé ce texte. Des véritables viols de fillettes à peine sortis de la première enfance, des rapports sexuels entre des femmes mûres et des jeunes garçons, ainsi que des actes sexuels imposés à caractère homosexuel, sont fréquents. Le problème concerne les pères, concerne aussi les mères, concerne les adultes en général, et nous sommes en plein dans une prise de conscience assez spéciale, qui a lieu en ce moment autour de cela, et clairement la société a envie de parler de ces problèmes. Et donc vous avez pris un risque magnifique, Isabelle Alfandari, en écrivant ce livre, en rappelant que oui, il y a de l'abus. Ferenczi l'a dit à Freud, parce que c'était quand même probablement son interlocuteur, mine de rien. Mais on ne peut pas traiter ces questions en oubliant complètement que par ailleurs, et il faut bien distinguer les deux choses, il y a du fantasme entre les adultes et les enfants, et du fantasme où il y a de la sexualité infantile.
Oui, mais pour Ferenczi et pour Laplanche, il y a une différence absolue entre l'enfant et l'adulte, même s'ils se répondent d'inconscient à inconscient, c'est la responsabilité de l'adulte par rapport à l'enfant. Peut-être c'est ça le plus important.
Oui,
la responsabilité, c'est-à-dire que l'adulte est adulte. Lui, son inconscient infantile, il l'a refoulé. Il a donc une responsabilité face à l'enfant. Et l'enfant et l'adulte ne sont pas du tout sur le même plan. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un risque à dire cela, parce qu'en fait, il s'agit simplement de dire qu'à la fois Freud découvre la sexualité infantile, ça c'est clair et c'est sans doute très scandaleux, mais la sexualité infantile dont parle Freud n'a rien à voir avec la sexualité adulte.
Absolument.
Rien à voir. La sexualité infantile de Freud, c'est simplement la recherche du plaisir par un enfant.
Donc quand j'ai dit prendre un risque, je voulais faire remarquer que c'est parfois dur en ce moment de dire plusieurs choses en même temps. Mais vous avez parfaitement réussi, Isabelle Alfandari. Et votre livre ne suscite aucune mauvaise polémique. Vous êtes d'une grande clarté. On peut dire les deux choses en même temps.
Et surtout, on peut dire que la sexualité criminelle de l'enfant sur l'adulte, elle est de l'ordre de la destructivité. Ça, des psychanalystes comme Laplanche l'ont dit, Ferenczi l'avait déjà dit.
Oui.
Une psychanalyste qui s'appelle Nathalie Salzmann va le dire encore plus clairement en disant un adulte qui abuse d'un enfant, en aucun cas, il est dans une relation éros. En aucun cas, il est du côté de soutenir la pulsion de vie de l'enfant. Il détruit l'enfant. Donc c'est très clair.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, opposant dès lors ce qu'il y a de tendre dans l'érotisme infantile et ce qu'il y a de passionné dans l'érotisme adulte, Ferenczi décrit un enfant ou un patient, par extension, excité psychiquement et démuni, débordé par l'excitation externe, mais surtout interne, lequel, n'ayant pas l'enfant donc à sa disposition les moyens de la décharge et ceux de l'élaboration, et se trouve à ce moment-là en pleine détresse, Ephologiskite. Et cette effraction prend la valeur d'un viol psychique, viol de la pensée, viol de l'affect, par disqualification de l'affect et par le déni de la reconnaissance de l'affect et de l'éprouver par l'objet, la mère ou son tenant-lieu. Ceci a pour conséquence la sidération du moi, ainsi que l'asphyxie, voire l'agonie de la vie psychique. Ce tableau va permettre à Ferenczi d'avancer le concept d'identification à l'agresseur, ainsi que celui d'introjection par l'enfant du sentiment de culpabilité de l'adulte.
Oui, c'est lui qui se sent coupable, souvent dans les abus, et ça pourrait expliquer la difficulté à dire, à parler, à révéler.
Exactement.
Et même à se souvenir.
Tout à fait. Lesquels viennent accroître la confusion des sentiments et l'organisation d'un véritable clivage narcissique. Clivage narcissique, c'est Ferenczi qui a créé ce terme qu'on retrouve dans son journal clinique, journal absolument extraordinaire et qui vaut vraiment la peine d'être lu. Encore deux secondes.
Oui, je vous en prie.
À l'amour passionné et aux punitions passionnelles infligées par l'adulte se surajoute le terrorisme de la souffrance, c'est-à-dire l'obligation faite à un enfant d'être celui qui prend en charge, répare et soigne un patient endommagé. C'est ainsi que l'enfant peut se faire le psychiatre de ses parents. De ceci, Freud semble n'avoir pu en retenir que le risque d'une régression théorique, donnant le sentiment de revenir à la première théorie de la séduction, en formulant, et là je cite Freud, « c'est l'adulte pervers par le biais de la sexualité qui induit la séduction et l'agit au corps défendant de l'enfant », ce qui, pour Freud, reviendrait à abandonner le dogme selon lequel le traumatisme serait essentiellement lié au surgissement de l'organisation fantasmatique dérivée de la sexualité infantile.
Merci beaucoup. Je suis désolée de devoir arrêter là cette analyse. Je vous remercie beaucoup tous les deux. La séduction est-elle un plaisir? C'était notre question. Sans doute, mais elle charrie plein de choses qui reviennent de notre enfance et pour certains même de vrais abus. Je crois que nous avons pu expliciter ce point.
C'est qui ces gens plus importants? C'est quoi ces trucs plus urgents? Je m'ennuie quand tu m'ébouriffes pas, quand tu viens pas voir ma gare, mon champ de pommes de pin, mes tours et mon magasin. Je mets une veste ou un blouson, aide-moi, je veux pas qu'on découvre qu'Étienne est bien plus canon. Dis-moi comment tu trouves mes paroles de chanson et mes pierres de torrent. Occupe-toi, occupe-toi de moi, le temps passe et je serai pas toujours là. Occupe-toi, occupe-toi de moi, le temps passe et je serai pas toujours là. Occupe-toi de moi. C'est qui tous ces gens qu'il faut voir? Je m'ennuie dans la bonne société. Et si on retournait pêcher des poissons troubles en eau bizarre, tu porteras mon barda et mon pied de caméra. Occupe-toi, occupe-toi de moi, le temps passe et je serai pas toujours là. Occupe-toi, occupe-toi de moi, le temps passe et je serai pas toujours là. Occupe-toi de moi. Occupe-toi de moi.
Chanson très intéressante sur l'appel, l'angoisse de l'enfant en l'absence de la mère. Essayer d'explorer ce qui se passe dans la pensée enfantine. Nathan Zanagar, Occupe-toi, c'est une chanson que Nathan Zanagar vient de rendre... Elle vient de sortir, cette chanson. Bravo. Merci beaucoup Isabelle Alfandari et Thierry Bokanowski. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms.
Pourquoi l'apprentissage est-il disciplinaire? Dans les années 60, une critique des disciplines telles qu'elles sont enseignées dans les institutions de l'école jusqu'à l'université, une critique des disciplines a eu lieu qui était très forte parce qu'elle jouait aussi sur deux sens du mot discipline. D'un côté, la discipline comme corpus autonome de savoir ou de techniques humaines appliquées à un objet particulier et donnant lieu à une spécialisation, par exemple les mathématiques, la philosophie elle-même, telle ou telle discipline spécialisée de la médecine ou de la science en général, d'un côté, mais d'un autre côté, il est vrai qu'il y a un usage du mot discipline qui est beaucoup plus normatif et violent, qui est le fait de respecter une discipline, de s'astreindre à une règle invariable. Et Michel Foucault avait bien montré qu'une critique du pouvoir disciplinaire en général, à la prison, dans la prison ou dans l'armée, pouvait d'une certaine manière s'appliquer au pouvoir scolaire. Comment se fait-il en effet que le fait d'apprendre ne soit jamais seulement le fait d'apprendre quelque chose par un savoir en quelque sorte théorique, mais le fait de maîtriser ce savoir par une répétition et peut-être une règle inculquée jusque dans notre corps, le respect de la discipline étant aussi dans les horaires, dans les postures, dans un certain nombre de règles physiques qui semblent venir compléter l'apprentissage disciplinaire au sens théorique et mener peut-être à une critique de ce dernier au nom d'un pouvoir arbitraire. Ce pouvoir de la discipline, cette fiction aussi parfois d'une discipline, cette apparence de la règle est bien entendu liée aussi à cette hypocrisie de la discipline qu'on retrouve chez Tartuffe, celui qui veut qu'on serre sa haie avec sa discipline, cet instrument de torture qui semble suffire à devenir un principe de vertu. En réalité, peut-être les choses doivent-elles être inversées. Pour échapper à cette violence disciplinaire qui est aussi, Bergson l'avait montré, le premier sens du mot éducation, l'inculcation par la répétition, par opposition à l'apprentissage libre du savoir, pour échapper à ce sens premier, primaire, violent aussi de la discipline, peut-être l'apprentissage d'une discipline et aussi de la pluralité des disciplines est-elle une forme de résistance? On dit bien maîtriser une discipline. C'est que la discipline du savoir n'est pas seulement celle du pouvoir. Maîtriser une discipline, c'est peut-être un instrument d'émancipation, à condition que l'apprentissage devienne aussi la maîtrise du contenu et peut-être être aussi des limites de la discipline, du besoin d'aller plus loin, puisqu'on l'a maîtrisé de l'intérieur. Aujourd'hui, la question de l'apprentissage va aussi vers les machines, vers les dispositifs d'apprentissage profond, le deep learning de l'intelligence artificielle. Celui-ci ne procède pas seulement par discipline isolée, il est l'objet aussi d'une rencontre très curieuse entre les disciplines, des mathématiques ou de la linguistique, par exemple, dans nos robots qui semblent apprendre le langage tout seul. La question de la discipline doit donner lieu à une critique politique, mais aussi à une réflexion de théorie de la connaissance et aujourd'hui à la manière dont l'interdisciplinarité peut libérer le monde au lieu de l'asservir.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Shaima Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Armance Bourquin, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.